19h sur BKFM 106.1. Bonsoir si vous nous rejoignez. Vous écoutez l'émission Prévence, votre émission 100% santé où je reçois des experts pour essayer de mieux comprendre notre corps humain. Vous le savez, vous qui nous écoutez régulièrement, Prévence, c'est plutôt le mardi. Mais là, journée exceptionnelle, horaire exceptionnel, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et pour en parler avec moi, j'ai la chance de recevoir l'infirmière du lycée Jules Renard, Violaine Sauer. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec moi sur BKFM.
Avec plaisir.
Et en deuxième partie d'émission, je recevrai par téléphone le docteur Valérie Anne Le Tambay de l'association SIDA Info Service. Violaine, aujourd'hui c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Au lycée, est-ce que ça se traduit par des événements particuliers ?
Alors malheureusement pas vraiment, parce qu'en lycée, le programme scolaire fait que les élèves sont très occupés. J'avoue que moi aussi dans l'infirmerie, donc je n'ai jamais fait jusqu'à présent d'exposition, même quelques heures dans le hall pour partager des informations. Par contre, tout ce que je vais faire comme prévention, c'est plutôt en individuel dans les consultations des élèves que je reçois, quels que soient les motifs, à l'infirmerie.
Donc ça se passe pas tant sur une journée, mais plus sur toute l'année où vous faites...
Voilà, c'est vraiment quasi quotidien, mais très récurrent.
C'est un thème qui revient souvent, ça, chez les lycéens, la sexualité
Alors la sexualité, oui. La protection, la prévention, ils sont plus axés sur les grossesses à risque. Parce que je peux aussi délivrer la pilule du lendemain. Donc c'est plus des jeunes filles qui viennent dans ces situations-là, mais... Justement parce qu'il n'y a pas eu d'usage de préservatif et c'est souvent des situations, des moments où je me permets de rappeler les risques de relations sexuelles non protégées, que l'on peut aller faire des dépistages gratuits en laboratoire ou aller dans les centres de dépistage comme le CEGIDD qu'on a juste au-dessus de la cité scolaire avec des équipes qui peuvent faire tout un dépistage gratuit et anonyme. Donc c'est des choses qui existent, qui sont très importantes, mais les questions autour du sida malheureusement ne sont plus vraiment posées comme si ça n'existait pas et l'information, parce que moi j'ai grandi, j'ai fait partie de la génération découverte du sida et tout ce qui était prévention et les préservatifs étaient quelque chose qui était la seule chose qui pouvait nous en protéger et, à l'époque et je sais que voilà, je vois que l'utilisation de préservatifs n'est absolument pas d'actualité malheureusement auprès des jeunes alors que c'est vraiment le seul moyen de se protéger alors que les cas de sida, de HIV ont tendance à un petit peu augmenter chez les jeunes par ce manque de protection et d'information.
Le retour que tu as, en fait, c'est plus qu'ils se préoccupent de la grossesse éventuelle que des éventuelles IST, je crois qu'on dit, infections sexuellement transmissibles.
Voilà, c'est ça.
D'ailleurs, qui ne concerne pas que le sida, il y en a beaucoup d'autres.
Oui.
Bah, du coup, quand les lycéens viennent te voir avec des questions sur les VIH ou le VIH, pardon, ou les IST, est-ce qu'ils ont des inquiétudes, des idées reçues, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout abordé ?
Les deux. C'est pas abordé du tout. Après moi, j'arrive à rentrer un petit peu dans leur intimité, à poser certaines questions, mais ils sont très vite mal à l'aise. Il y a encore malheureusement beaucoup trop de tabous. Après, il y a des milieux socioculturels où c'est plus ou moins facile d'aborder certains sujets. C'est très rare qu'on me pose des questions sur les infections sexuellement transmissibles. C'est comme aussi un petit peu les violences intraconjugales qui apparaissent aussi déjà dès l'adolescence. C'est vraiment des sujets qui sont très difficiles à aborder et sur lesquels on coince parce qu'ils ne viennent pas vers nous.
Il y a une sorte de retour du silence quelque part.
Complètement.
Et comment vous l'expliquez ça ?
Alors, tabou, pudeur ou le fait que peut-être qu'on n'en parle plus assez que juste sur des journées comme ça, ponctuellement, on fait une piqûre de rappel. Mais je pense qu'il manque peut-être un petit peu plus de prévention ou de diffusion plus large au grand public.
Tu évoquais tout à l'heure les préservatifs, on parlait aussi de dépistage. Pour un ou une lycéenne qui nous écoute ce soir, quels sont les moyens de prévention concrets auxquels ils peuvent avoir accès au lycée ?
Alors au lycée, moi personnellement, à Jules Renard, il y a une boîte à l'entrée de l'infirmerie dans l'accueil. Hein, il ne passe pas par moi dans ma salle d'attente. J'ai des préservatifs qui sont achetés par le lycée et qui sont gratuits, délivrés. Les élèves viennent les prendre quand ils en ont besoin, sans avoir à demander. Et également, enfants. Il faut savoir que maintenant, depuis quelques, un peu plus d'un an, deux ans et demi, il y a l'accessibilité des préservatifs gratuits en pharmacie pour les moins de 26 ans. Donc, il n'y a vraiment pas, aucune nécessité d'y aller, de se présenter. Il faut juste oser le faire, en fait. Mmh. Parce que même moi, je vois ceux qui sont à disposition dans mon infirmerie, limite, ils ont des stratégies d'évitement. Je les vois qui se tournent, ils se cachent, ils passent la main dans le dos pour en prendre, comme s'il y avait une retenue, une honte ou une gêne à prendre des préservatifs, alors que ben non, il n'y a pas à avoir de gêne. La sexualité fait partie de l'adolescence, de la découverte du corps, et se protéger, ben c'est, si on estime qu'on est assez grand pour avoir une sexualité, et ben il faut aussi être capable d'avoir la responsabilité de se protéger soi-même et de protéger les autres.
Et puis ça évite de payer, je ne sais pas quel montant, 8, 9, 10 euros pour une boîte.
Exactement, voilà. Exactement. Puis surtout que bon, maintenant les pharmacies, voilà, les moins de 26 ans, ils ont accès gratuitement, quoi, tout simplement.
Selon une étude de Santé publique France, entre 2014 et 2023, le nombre de découvertes de séropositivité VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans a augmenté de 41%, alors que chez les adultes, donc de plus de 24 ans selon l'étude, a diminué de 15%. Est-ce que c'est, comme tu le dis, lié au tabou ?
Oui, je pense que c'est lié au tabou. Puis c'est au-delà du tabou, de la sexualité, de se protéger. C'est qu'on l'utilisation un peu en systématique du préservatif, un peu, c'est pas dépassé, mais je sens que ça n'est plus le premier réflexe.
Là, c'est quasi ringard, en fait.
C'est quasi ringard. Et à notre côté, c'est le manque d'information, c'est-à-dire que ça n'arrive qu'aux autres. Et à un côté, on ne se sent pas concerné, on est jeune, on risque rien, on n'a pas encore eu beaucoup d'expérience dans nos vies, donc on n'a pas encore été exposé à tout ça. Et il y a aussi peut-être cette idée-là, nous, enfin, dans ma génération, découverte du sida et de la séropositivité, le VIH, etc., il y avait ce côté danger de mort, parce qu'à l'époque, le sida se déclarait et du coup, il y avait des maladies opportunistes qui pouvaient tuer les gens. Aujourd'hui, on sait que les traitements permettent à une personne contaminée de ne plus avoir de charge virale détectée dans le sang, donc ne transmet plus le sida. Donc, les jeunes associent non plus en fait l'idée que éventuellement le sida on peut l'attraper et que c'est un grand danger en fait, puisque il y a un médicament qui existe, même si on n'en guérit pas, qui permet de vivre normalement. Alors ils n'imaginent pas les effets secondaires peut-être de tous ces traitements là, c'est pas des bonbons, mais c'est clair que oui, c'est quelque chose, c'est un ensemble de choses en fait, c'est vraiment un ensemble de facteurs.
C'est la question que j'aurais sans doute dû poser en premier, parce qu'on parle du sida comme on parle d'un méchant de film. En fait, c'est quoi le sida ?
Le sida, c'est un virus sur lequel on n'a pas encore trouvé ni de vaccin ni de moyen d'en guérir. Donc ça, c'est une chose qu'il faut vraiment garder en tête. Et c'est un virus en fait, qui s'attaque au système immunitaire et qui fait que ben, du coup, la personne, on peut vivre pendant plusieurs années avec le virus qui est à l'état endormi. Et puis un jour, pour X raisons, le virus va se réveiller et attaquer le système immunitaire de la personne qui, au final, va se mettre à attraper des maladies qu'elle n'aurait jamais attrapées auparavant parce qu'elle n'a plus de défense immunitaire. Donc on se retrouve avec ce qu'on appelle des maladies opportunistes qui, elles, deviennent extrêmement graves et affaiblissent la personne jusqu'au décès.
Et tu l'as dit tout à l'heure, à ce jour, on n'a pas moyen de soigner à proprement parler le VIH.
Non, on permet juste de diminuer la charge virale présente dans le sang, qui permet de calmer le virus, de l'endormir. Mais c'est juste, il est juste endormi
et pas mort.
Mais pas traité.
Puisque la solution semble être de la prévention, entre autres, on va en parler un petit peu. Selon l'article L312-16 du Code de l'éducation, chaque année, 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle doivent être réalisées. On sait qu'au niveau national, c'est pas toujours le cas, en fait. Le constat chiffré du collectif Nous Toutes a fait une enquête en 2022, ça date un petit peu, mais pas tant que ça quand même. Et plusieurs rapports associatifs, les élèves reçoivent en moyenne 2,7 séances sur toute leur scolarité, au lieu des 21 séances théoriques minimum, ça représente environ 13% de ce qui est prévu par la loi. Il y en a des séances à la vie éducative et sexuelle à Jules Renard ?
Alors, Pas tout à fait pour l'instant. Je sais que mes collègues de CDI là, vont mettre en place une exposition là, début 2026 au CDI concernant la sexualité et le consentement. Mais là, c'est devenu une politique un peu plus forte, une volonté politique et de l'éducation nationale. Donc là, il y a le programme EVARS qui se met en place. On a déterminé des référents santé, que ce soit sur Jules Renard, Raoul Follereau. Et on va essayer de commencer à mettre en place, effectivement, il devrait y avoir au moins 3 séances par niveau de classe, par an, d'une heure ou deux.
Dès cette année.
On va commencer un petit peu cette année. En tout cas, on va planifier les actions parce qu'il faut quand même réfléchir sur quel sujet on aborde et comment les choses vont évoluer par la suite.
Parce que j'ai regardé un petit peu le détail de ces séances. En fait, c'est assez large. Ça va de la lutte contre l'homophobie aux questions de genre. On parle évidemment du
oui.
VIH. C'est assez large.
Oui,
est-ce
oui,
que trois séances, c'est vraiment assez?
Sur les années lycées, si on fait ça de la seconde à la terminale, ça fait 9 séances. Donc, dans les collèges, s'ils le font, de la sixième, ça en fera 12. Après, voilà, si on met en place une politique d'éducation à la santé et à la sexualité à ce moment-là, dans ces séances-là, on peut aborder énormément de sujets adaptés aux âges des élèves.
Et pour qu'on comprenne bien, ça serait avec vous, avec le professeur?
En général, ça peut être, alors, on fait en binôme, enfin, normalement, on fait toujours en binôme, mais c'est soit on utilise le programme scolaire pour rebondir dessus, et toujours, normalement, oui, en binôme, l'infirmière et un enseignant.
Vous êtes, j'allais dire ravie, c'est pas tout à fait le terme que je voulais utiliser, mais vous êtes contente que ça se met en place.
Oui.
Tu es contente.
Oui, je pense que c'est important. Après, voilà, va falloir les caler parce que le programme scolaire est lourd et j'espère qu'on arrivera à intéresser beaucoup de jeunes avec ça.
Parce que les professeurs avaient répondu au collectif Nous Toutes qui pointait ce manque d'éducation et en fait ils avaient dit globalement qu'ils n'étaient pas assez formés, qu'il n'y avait pas le temps quoi.
C'est ça, et on a commencé à suivre l'année dernière des formations par l'éducation, par le rectorat de Dijon, on a pour former des enseignants à être formateurs pour animer ces interventions.
Mise en place cette année et c'est sûr l'année prochaine, il y aura les 3 séances.
C'est ça.
Merci Violaine Sauer d'avoir répondu à mes questions.
Avec plaisir.
On va continuer à parler du VIH et de prévention, mais cette fois-ci avec l'association SIDA Info Service, avec le docteur Valérie Létambé. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Bac FM pour continuer à parler du VIH et du SIDA. Vous êtes membre de l'association SIDA Info Service. Concrètement, c'est quoi le SIDA Info Service pour les gens qui ne connaîtraient pas?
Donc SIDA Info Service, ce sont des lignes téléphoniques, un accès mail, live chat et forum pour des entretiens, du conseil, du soutien et de l'information sur toutes les thématiques concernant le VIH, SIDA et les IST. Donc on est joignable de 8h à 23h. C'est un service qui est confidentiel, anonyme et gratuit. Et donc on répond aux usagers pour leur apporter tous ces éléments notamment d'informations au sujet des IST, du VIH et du SIDA.
Donc ça s'adresse à tout le monde, que ce soit les jeunes qui veulent avoir des infos ou...
Exactement, et les jeunes qui veulent avoir des infos, les moins jeunes qui veulent aussi avoir des infos,
oui.
Les personnes qui souhaitent aussi savoir comment s'orienter dans le parcours de soins, qui voudraient faire des tests, qui ne savent pas où aller. Et donc voilà, on répond vraiment à tous ces enjeux-là. Ça peut aussi s'adresser à des personnes qui se posent des questions sur ces questions, sur le VIH, SIDA, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de soutien, qui souhaitent un accompagnement à distance. Et donc, c'est vraiment là où nous sommes présents dans la relation d'aide à distance.
Je disais tout à l'heure à l'infirmière du lycée Jules Renard que selon une étude de Santé publique France publiée ce mardi 25 novembre, entre 2014 et 2023, le nombre de découvertes de séropositivité VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans a augmenté de 41%. Bac FM, c'est une radio lycéenne. Comment vous expliquez que chez les jeunes, ça explose comme ça?
Alors, il y a plusieurs enjeux. D'une part, l'enjeu de l'information. Donc, est-ce que les jeunes sont assez informés? Est-ce que dans l'éducation, etc., ce sont des thématiques qui sont présentes et qui font l'objet de points d'attention particuliers? Donc ça, c'est une première piste. Et puis aussi dans l'utilisation du préservatif, probablement qu'il y a moins d'utilisation du préservatif et ce qui conduit à plus de prise de risque, notamment au niveau sexuel.
Moins d'informations, plus de tabous?
Peut-être aussi, effectivement, plus de tabous. Mais L'enjeu, c'est vrai qu'avec nos lignes, on arrive à pouvoir recueillir des témoignages de personnes qui n'oseraient pas, par exemple, en parler à leur entourage directement ou même à leur professionnel de santé. Donc, vraiment, si bien un peu service, on a cette capacité de pouvoir entendre des choses, puisque les personnes qui nous appellent ne nous font pas face et donc parfois ont plus de liberté pour discuter de leurs questionnements, des risques éventuellement qu'ils ont pris et donc voilà, ça nous place dans une relation un peu différente d'une relation de pair ou d'une relation de professionnel de santé.
Donc quand on vous appelle, ou du moins quand on vous écrit sur un chat, puisqu'il y a aussi un dispositif au niveau écrit, on tombe sur une docteure comme vous, on peut tomber sur qui ?
Alors en fait, on tombe sur ce qu'on appelle des écoutants,
oui.
Qui sont formés donc à toutes les questions de santé sexuelle et du VIH-SIDA en particulier. Et lorsque parfois il y a besoin d'avis médicaux, on peut nous transférer les appels à des médecins ou des scientifiques de SIDA Info Service.
C'est anonyme ?
C'est anonyme.
Ok. C'était pour le côté information pour nos auditeurs. Est-ce qu'en cette journée mondiale, puisque c'est un problème mondial, c'est un fléau mondial de lutte contre le SIDA, est-ce que vous organisez des événements particuliers ?
Alors nous, SIDA Info Service, on n'organise pas d'événements particuliers puisqu'on est plutôt dans la relation d'aide à distance. Donc on met des contenus sur nos réseaux sociaux, notamment pour faire de l'information et de la prévention. Par contre, il y a d'autres associations plus de terrain qui organisent des actions de terrain liées à cette journée mondiale contre le SIDA.
Quelles sont les fausses informations que vous entendez encore parfois au téléphone ou au chat ?
Alors, il peut y avoir le VIH se transmet par une piqûre de moustique ou que le VIH se transmet en embrassant une personne. Voilà, il y a encore toutes ces fausses informations qui circulent et c'est important de pouvoir redire que non, les modes de transmission du VIH sont les rapports sexuels non protégés, sont l'exposition sanguine et peuvent être la transmission materno-fétale lors d'une grossesse.
Pour revenir à la base, puisque vraisemblablement il y a un problème d'information, le meilleur moyen de se protéger du VIH, c'est d'utiliser des préservatifs.
Effectivement, le meilleur moyen de se protéger du VIH, c'est d'utiliser des préservatifs. C'est aussi de tester, c'est-à-dire d'aller se faire dépister, puisque si on n'est pas porteur du VIH, on ne peut pas le transmettre. Et le seul moyen de savoir si on est porteur du virus ou pas, c'est d'aller faire un test.
Ça, le test, on peut le faire à quels endroits ?
Alors le test, il est assez accessible puisque on peut le faire en laboratoire sans ordonnance, on peut le faire dans des centres de dépistage, les CEGID spécialisés, on peut aussi le faire suite à un rendez-vous médical où le professionnel de santé prescrira le test de dépistage. Donc voilà, ces tests sont assez accessibles et avec mon test IST, donc pour les moins de 26 ans, les dépistages sont gratuits en laboratoire de ville.
Si un jeune pense avoir pris un risque, comment ça se passe concrètement ? Est-ce que vous lui conseillez de faire un dépistage, j'imagine ?
Effectivement. Alors, d'une part, on essaye de savoir sur quel territoire il habite pour qu'on puisse l'orienter vers une structure de soins qui est proche de chez lui et adaptée à ses besoins. Et puis, oui, effectivement, lorsqu'il y a une prise de risque, il y a un enjeu de se faire tester, puisque dans les risques qui sont pris, donc il peut y avoir une exposition au VIH, mais il peut aussi y avoir une exposition à d'autres IST. Donc, il y a un enjeu de faire un test global pour pouvoir prendre en charge les pathologies si jamais elles sont positives au test.
L'infirmière scolaire que je recevais tout à l'heure me disait qu'au fond, les lycéens étaient plus préoccupés par un souci de grossesse non désirée que par les IST, et donc par ricochet par le VIH. C'est un échec d'information, ça, collectif ?
Oui, je pense que ces dernières années, il y a peut-être moins de communication au sujet du VIH-SIDA et des IST, et donc que finalement, nos concitoyens les plus jeunes sont, les moins informés et n'ont pas conscience des risques liés à ces IST.
SIDA Info Service, c'est de l'écoute anonyme. Pour un jeune qui a peur d'en parler à ses parents, à son médecin, à l'infirmier du lycée ou à que sais-je, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter au bout du fil ?
Alors d'une part, on peut l'écouter, on peut l'entendre, c'est-à-dire que tout peut être dit. On peut aussi l'orienter, notamment auprès de professionnels de son territoire. On peut aussi lui proposer d'être en contact avec lui à un autre moment, c'est-à-dire de l'accompagnement, c'est-à-dire que c'est pas forcément qu'un appel unique, ça peut être aussi de l'accompagnement. Et ça, pour les jeunes notamment, c'est important de se dire que le soutien, il n'est pas juste une fois, mais il peut être sur la durée. Et ensuite, voilà, surtout répondre à ces demandes. Et les enjeux sont là, c'est quels sont les besoins et comment est-ce qu'on peut essayer d'y répondre avec lui, de l'aider à prendre une décision, le soutenir et le conseiller avec des informations qui sont des vraies informations sourcées et pas des fake news.
Il y a aussi un problème de fake news, hein.
Effectivement, notamment avec les réseaux sociaux. Et donc, c'est important voilà, d'avoir une information qui est certifiée, identifiée, car, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'idées reçues qui peuvent être alimentées par les réseaux sociaux notamment.
Voilà, donc les lycéens et les lycéennes peuvent embrasser leur partenaire de couple sans risquer de choper le sida, quoi.
Exactement.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes de 14-20 ans qui nous écoutent ce soir sur le VIH et sur la prévention ?
Ce que je peux leur dire, c'est qu'il y a tout intérêt à s'informer et vraiment choisir les sources d'informations. Donc ça, c'est important parce que même sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui communiquent sur ces thématiques et qui sont certifiées, entre guillemets, en tout cas qui donnent des vraies informations. Donc il faut vraiment faire attention de où est-ce qu'on va chercher l'information. Donc SIDAinfoService fait partie des sites qui donnent une information fiable. Et surtout, ne pas hésiter à se faire dépister. Puisque lorsqu'on va dans un centre de dépistage, ça nous permet de se faire dépister pour les IST, certes, le VIH-SIDA, ça permet de parler de contraception éventuellement, ça permet voilà, d'aborder plus de thèmes que simplement le dépistage, et donc ça permet de prendre soin de soi de manière globale, et donc la prise, prendre soin de soi, plus tôt on commence, mieux ça vaut.
Je ne sais plus si on l'a précisé, mais c'est évidemment gratuit, le dépistage.
Exactement, c'est gratuit. Que ce soit en laboratoire, dans le cadre de Mon Test IST, où c'est gratuit pour les moins de 26 ans, donc le dépistage complet, avec prise de sang et prélèvements locaux, et en Cégide, c'est aussi gratuit.
Je me dis que ça vaudrait peut-être le coup de démystifier un peu, parce qu'on dit dépistage, mais sans doute que les jeunes qui nous écoutent n'en ont jamais fait. Ça ressemble à quoi un dépistage quand on va faire un test IST ?
Alors, du coup, quand on va faire un test de dépistage, on dépiste plusieurs pathologies.
Oui.
Donc, via une prise de sang, on peut dépister le VIH, la syphilis et les hépatites. Et via un prélèvement local, on peut dépister les chlamydia et le gonocoque. Donc, pour les hommes, on dépiste via un prélèvement urinaire. Et pour les femmes, on dépiste via un prélèvement vaginal que les femmes se font en auto-prélèvement.
Voilà, donc peut-être ça peut rassurer les gens qui nous écoutent qui avaient peut-être une image un peu tronquée de ce qu'est un dépistage.
Exactement. Donc voilà, c'est une prise de sang et un prélèvement local.
Merci.
Donc c'est important de faire tout le dépistage puisque souvent, on entend souvent que la prise de sang. Mais non, pour avoir un dépistage global, il faut aussi le prélèvement local.
C'est important. Merci docteur Le Tambay d'avoir répondu à mes questions.
Je vous en prie.
Merci également à Violaine Sauer d'avoir répondu à mes questions en première partie d'émission. Du coup, je rappelle que vous êtes respectivement membre du SIDA InfoService et infirmière du lycée Jules Renard en ce qui concerne la première partie. Cette émission Prévence est maintenant terminée. Chers auditeurs, allez la retrouver en podcast sur notre site internet, c'est www.radiobikefm.fr. Bonne soirée à toutes et à tous et tout de suite, c'est le meilleur de la musique rock et metal sur Bike FM.